dans le chapitre, nous voyons que Jacques parle de la transformation, que cet épître est pour notre perfectionnement. Il dit, nous avons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un ne fait pas d'erreur dans sa parole, c'est un homme pur qui est capable de tenir tout son corps en bride. Nous faisons toujours beaucoup de salut dans le salut initial dont le frère a parlé. Pour l'entrée dans, c'est une vie qui est indestructible, que personne ne peut le prendre, mais ça signifie malheureusement pas que nous ne faisons plus d'erreurs. Nous ne péchons plus, nous sommes déjà parfaits et nous ne sommes pas transformés. Mais bien plus, il y a encore beaucoup d'erreurs et des choses que le Seigneur doit traiter en nous, mais il veut faire de nous des hommes mûrs. C'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques a aussi dit, ça doit être un prémisse pour le Seigneur. Et de parler, c'est un point décisif pour les prémices. Dans Apocalypse 14, verset 5, c'est le dernier verset de la description des prémices sur la montagne de Sion, la montagne céleste de Sion. Dans le verset, en verset 5, il est dit, « Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » Ça, c'est la maturité, le perfectionnement, que notre bouche doit être traitée. Il n'y a pas de mensonge qui a été trouvé dans notre bouche. Nous parlons comme Jacques dit, qui ne fait pas d'erreur en parlant, en parole. Pourquoi est-ce que si c'est important même pour le corps? Est-ce qu'il dit pas seulement la parole est importante, mais il en vient de garder de tenir le corps en bride? Je trouve un très bon exemple. Et dès qu'il y a des choses qui se passent dans l'église, on peut voir des choses dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le peuple d'Israël, on voit Dieu a dit que c'est son église. Comme nous sommes l'église, parce que c'était autrefois l'église, et ils ont aussi dû se tenir en bride pour eux. Il n'y avait pas la démocratie. Ça n'aurait pas fonctionné. Et ça n'a pas non plus fonctionné ici. S'il aurait décidé d'après leur décision, d'après leur cœur, il a eu besoin d'hommes par lesquels Dieu a pu donner sa direction au peuple. Et autrefois, il a choisi un homme, Moïse, qui devait guider son peuple et de tenir en bride. Sans cette personne, la colère de Dieu aurait exterminé toute l'église. Mais Moïse, il avait été tel. Il a reçu une telle grâce qu'il a pu garder ce corps en bride. Il était souvent, parmi son temps, celui qui a entendu la parole de Dieu et qui a pu la donner. Et particulièrement, il n'a pas été rapide à parler. Il a été rapide à entendre à la colère. Ça, c'est aussi pour nous. Même en tant que lui, personnellement, le peuple a murmuré contre lui et contre le peuple. Il n'a pas directement donné une mauvaise réponse, une réponse méchante, mais il y a une réaction forte en lui, mais pas contre les hommes qui lui ont amené quelque chose, mais c'était une douleur intérieure. Et il s'est humilié devant le Seigneur. Il a tout amené, ce que nous avons entendu. Ensuite, le Seigneur lui a donné les bonnes paroles qui étaient pour toute l'Église, et ça si souvent donné un salut. C'était un combat. Pour Moïse, c'était un combat. Pas qu'il soit rapide à la colère, mais qu'il puisse recevoir la parole de Dieu pour guider l'Église. Verset 3 dans Jacques. Voici même les navires. Il l'a déjà lu depuis les chevaux. Le verset 3. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux et sont dirigés par un très petit gouvernail au cri du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et il y a cet autre côté. Une fois, la langue, elle peut être un petit membre, peut servir pour nous diriger des bons côtés, ce que le Seigneur, par des frères et sœurs, par des frères, nous parle. C'est si précieux. Dans ma vie, j'ai si souvent eu besoin de ça, c'était un tel salut. Souvent, j'ai fait des choses, j'ai fait mes choses, et j'ai fait ci et ça. Ça, je peux aussi faire cela. Et je me suis pris dans plein d'autres choses. Mais quand je suis venue à la réunion, le Seigneur a parlé par les frères et sœurs. Parfois, c'était peut-être juste une toute petite chose. Mais ça m'a complètement tourné du bon côté. C'était étonnant. Je pouvais faire beaucoup de choses pendant des heures entières. Et c'était toujours plus loin. Mais une petite chose qu'un frère ou une sœur a dit, d'un coup, ça m'a tourné. Ça m'a amené sur le bon chemin. C'est si précieux. Si nos langues sont ainsi et que le Seigneur peut l'utiliser, alors il y aura de la gloire et on pourra expérimenter ensemble et aller dans la bonne direction. Mais le Seigneur avertit aussi très fort que cette langue peut être le contraire. Pas seulement dans nos vies personnelles. Si quelqu'un dit quelque chose, et ça fait des dommages, mais pour tout le corps. Et il y a deux exemples du peuple d'Israël où ça s'est passé. C'était la tribu de Corée et une tribu des Lévites. Et une jalousie contre Moïse et Aaron. Ils peuvent s'approcher, ils peuvent faire le service et il aurait bien voulu faire ça aussi. Mais il n'est pas allé vers lui, il a parlé, mais il a pris d'autres personnes avec lui avec sa langue, il a allumé un petit feu. Il a pris encore deux autres personnes avec lui, encore un autre. Il leur a dit, regardez, ce que Moïse fait, c'est pas un ordre. Il demande trop. Et ensuite, ils ont encore pris 250 avec eux. Et ensuite, c'était toute une tribu, c'est ce que nous dit l'Écriture. Une tribu qui est allée et qui était pleine de colère. Par les émotions, parce qu'ils sont sortis, ils ne pouvaient plus voir clairement. Ils sont allés vers Moïse. La plupart connaissent l'histoire, comment est-ce que ça continue. Le Seigneur a donné un jugement fort. Il a confirmé par Moïse et Aaron. Mais le dommage était immense parmi le peuple. Parce que ces 250, la famille de Datan et Abiram, et à la fin, le peuple est si influencé qu'ils ne peuvent plus vraiment bien voir. Et le jour d'après, ils disent Moïse et Aaron, vous avez tué l'église du Seigneur. Mais c'est pas vrai. Mais c'était le Seigneur qui a jugé. Il y a encore eu un autre jugement. Il y avait un grand dommage qui est ressorti. D'un petit feu jusqu'à sortir par la langue. En disant que Moïse et Aaron demandent trop. Et la même chose, c'est aussi aujourd'hui un danger. Notre langue ne doit pas allumer un feu, mais que la langue doit être prise par la gêne. Verset 6. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle souille tout le corps. Enflammant le cours de la vie et étant elle-même enflammée par la gêne, nous devons faire attention par quoi notre langue peut être enflammée, allumée. Qu'il n'y ait rien qui monte dans notre corps, que nous les ayons. Le zèle pour l'éternel, pas que ce soit notre propre fierté. À une place, tu ne peux pas accepter une accusation d'un frère, mais tu dois avoir deux ou trois. Si quelqu'un vient vers moi et il m'a dit quelque chose contre quelqu'un d'autre, mon cœur est très vite que j'aimerais accepter ça et dire « Comment est-ce que cette personne peut faire ça ? C'est vraiment terrible et c'est faux. » Et j'aimerais continuer de le dire et expliquer à quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour la tribu de Corée, que le Seigneur avertit que nous ne prenions pas si vite quelqu'un qui se plaint. Il y a une phrase où celui qui parle d'abord le jugement, il a raison. Jusqu'à ce que le prochain vienne. Et c'est souvent c'est comme ça. Quelqu'un m'a donné sa vue de l'histoire et j'ai pensé, comment est-ce que cette personne peut faire ça? Mais quand j'ai parlé avec l'autre personne, j'ai remarqué, c'est en fait différent de ce que ça a été présenté par l'autre personne. Maintenant, j'apprends de ne pas juger si vite quelqu'un dans mon cœur, mais d'amener au Seigneur, de lui demander, de ne pas continuer d'expliquer, ça amène toujours beaucoup de dommages, mais de traiter devant le Seigneur. J'aimerais lire deux versets dans Proverbes. Proverbes 17, 19, le verset 19. Il est dit, celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Il y a un verset dans Proverbes 27, verset 5. Il est dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Une fois, il y a l'amour qui cache, et une fois, elle l'expose. Celui qui aime les grêles le péché. Ces deux versets, ils se complètent très bien parce que ça montre. Celui qui cherche l'amour, il cache ces choses. C'est quand on parle avec d'autres. Si j'expérimente quelque chose qu'un frère a fait, alors c'est l'amour si je ne l'explique pas à un autre frère. Mais si tu fais quelque chose qui n'est pas en ordre et je ne te le dis pas, c'est un amour caché qui n'est pas bon. C'est la grande différence. Si nous voyons des erreurs, c'est pas avec amour de ne pas le dire, mais ça dépend avec qui je parle. Si j'explique à l'autre frère qu'est-ce que le frère fait de faux, mais je n'explique pas au frère qu'est-ce qu'il fait de faux, alors c'est exactement le mauvais côté. Le Seigneur nous montre comment est-ce que nous pouvons aider le frère pour pouvoir sortir de cela. Et ça, c'est le chemin de ne pas expliquer directement ce qu'il a fait à tout le monde. Parce que si je fais cela, je continue d'expliquer. Si quelqu'un explique quelque chose encore, c'est des mauvais amis. Je crois que personne n'aimerait se séparer de l'humanité d'autres personnes, mais c'est ce qui se passe. Si on continue d'expliquer les choses, si notre langue, elle gratte, on aimerait dire, on aimerait juste parler. Il y a quelque chose dans notre chair. De dire, regarde ce qu'il a fait. Mais ça, c'est pas le chemin du Seigneur. Il est même dit de tels saints qu'on aimerait bien. On aime bien les. Dans Proverbes 26, nous puissions exercer la maîtrise de soi, pas d'écouter si quelqu'un explique, regarde, il a fait ci ou ça, de dire, j'ai pas envie d'entendre cela. Ou souvent, j'ai déjà demandé, mais est-ce que tu as déjà parlé avec cette personne? Et souvent, la réponse est non. Alors, tu peux dire, continue pas à l'expliquer, mais amène au Seigneur, parle avec lui et ensuite, et aussi avec la personne. Parce que sinon, l'ennemi peut venir pour allumer un feu. Peut-être extérieurement, c'est pas ainsi, mais le verset d'après, une langue enflammée, un mauvais cœur. Peut-être qu'on ne voit pas extrêmement pas, et ça a l'air terrible si quelqu'un explique quelque chose, mais on peut très vite allumer un feu. Là, nous ne devons pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. C'est au verset 23, ainsi sont des lèvres brûlantes et un corps mauvais. Pas expliquer les choses, d'où est-ce que ça vient, c'est les versets 6 à 8. La langue est un monde de l'iniquité. Sous tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Ça vient de Satan. Il aimerait prendre notre langue parce que toutes les espèces de bêtes, l'oiseau et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. On va se poser la question, qu'est-ce qui est sous notre langue? C'est un venin mortel. On va se demander, qu'est-ce qui est sous ma langue? Parce que si je parle, ce qui ressort de ma bouche, est-ce que c'est aussi un venin mortel? Ou c'est un feu? Parce que l'ennemi aimerait influencer notre langue. Il est appelé le père du mensonge, dans Jean. C'est le père du mensonge, du début à la fin, et quand il parle, alors il parle de lui-même. Et si nous, nous parlons aussi ainsi, nous sommes ses frères, nous sommes des enfants du père des mensonges, et il est aussi le serpent, c'est là qu'il y a aussi le venin. Venin de serpent, il est venu pour tuer. Et ils l'ont cru tout au début, Adam et Ève. Il était très... Peut-être qu'on peut maintenant discerner aujourd'hui, mais ce qu'il a dit autrefois, alors... Oh, je ne voudrais pas prendre, mais comment est-ce que c'est quand il est... Quand il vient chez nous? Est-ce qu'on le voit rapidement aussi? Est-ce qu'on voit si c'est du venin? Est-ce qu'on voit qu'il y a du venin qui sort de notre bouche ou pas? C'est souvent les petites choses. C'est pas que je sois un grand mensonge et ça c'est un venin, mais souvent le poison qui sort, c'est un mélange. Je dis quelque chose qui a l'air bien, mais derrière cela il y a une motivation. J'aimerais amener ce point à quelque chose qui veut pas et qui serait pas bien pour lui, mais j'aimerais faire ça parce que si je fais ainsi, qu'il peut entendre et qui va dans cette direction, mais j'influence la personne pour que ça me plaît. Mais après, à la fin, ça nous fait du dommage aux deux. C'est un grand danger que nous prenions pour nos propres. On peut ajouter des choses ou laisser des choses, et on voit dans notre temps très bien dans les médias. On peut voir, il laisse un petit détails loin et il y a tout qui manque. Ils mettent un peu de mélange, de mensonges et ensuite ce sera tourné dans un sens des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et si on leur avait dit plus tôt, on leur aurait dit non, je ne fais jamais ça, mais on doit juste donner le bon mélange avec beaucoup de vérité, beaucoup de choses qui ont pu l'air bien et encore un petit poison qu'on mélange. Et ça amène dans une mauvaise direction. Et à la fin, ça amène la mort. La grande partie de ce qui se passe dans les médias, c'est pas inconscient ce qu'ils font. Nous ne devons pas être ainsi. notre parole doit pouvoir intercéder, nous devons pas essayer d'influencer. Nous avons besoin d'une parole qui est pure, qui vient du Seigneur. Et là, le Seigneur, ça ne va pas de dire « Seigneur, donne-moi ce qui est juste », de dire ce qui est juste, mais le cœur doit être celui-là. La langue et le cœur appartiennent ensemble. C'est ce que dit Matthieu 15. Matthieu 15, 18 et 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et d'une certaine manière, notre langue est un miroir pour notre cœur. C'est un avantage que notre langue participe parce qu'on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Si quelqu'un raconte beaucoup, alors tu sais, alors tu vois qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Pour nous, c'est pas bon parce qu'on est exposé si nous le faisons. Mais parfois, c'est aussi bon. Le Seigneur m'a rappelé quand après que j'ai dit quelque chose. Ça, c'est dans ton cœur. Et là, maintenant, je vais me repentir. Simplement de dire des choses qui sont importantes, mais de laisser le cœur pas traiter, c'est une religiosité. C'est pas la vie. Je sais dans la tête ce qui est juste et je le dis aussi, mais mon cœur est ailleurs. Ça, c'est ce cœur qui est appris dans la religion et ça, c'est aussi une forme de la maîtrise de soi. Souvent, j'ai vu comme les hommes, ce sont. Leur parole était très bonne, ils ont appris la maîtrise de soi, mais quand ils n'avaient dans leur corps, ils n'avaient plus la force, alors c'est ressorti ce qui était dans leur cœur. C'était un désastre. J'étais très choquée quand j'ai vu les personnes. Pour ça, que ce ne soit pas que nous demandions de parler juste, pas faire d'erreur, mais que notre cœur soit traité. Ça ne sera plus ainsi que des choses en ressortent et que nous devons prendre garde qu'est-ce que je dis là et qu'est-ce que je dis là. Pas que nous fassions un mauvais pas. C'est très difficile et à la fin ça nous détruit, mais que ça soit notre cœur soit traité pour que des choses bien en ressortent. Nous ne pouvons rien faire de parler des choses que le Seigneur a œuvrées en nous, que le Seigneur nous a montrées, que le Seigneur a faites. L'amour qui a grandi en nous. Alors, c'est aussi besoin, pas de temps de maîtrise de soi, de prendre garde à ce qu'on dit, mais c'est naturellement. C'est une source d'eau vie, d'eau de la vie. Le Seigneur doit faire cela en nous. Ésaïe 29, il dit, votre service, vous faites avec vos langues, mais le Seigneur aimerait nous transformer complètement, que les choses bien ressortent de nous. Ce ne sera pas après ainsi que notre cœur, un point soit traité, et ensuite seulement des bonnes choses en ressortent, mais nous devons continuer d'exercer la maîtrise de soi, parce que Jacques dit que la chair est toujours là, il y a toujours la tentation qui vient. Et dans les épreuves, alors, l'ennemi essaie d'utiliser cela pour nous amener dans le péché. C'est pour ça que nous avons besoin de la maîtrise de soi dans les difficultés. Si quelqu'un dit quelque chose qui amène des dommages, alors nous avons besoin de la maîtrise de soi, de demander au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? J'aimerais pas réagir par la chair, même si le Seigneur a déjà appris des bonnes choses dans notre cœur. Alors nous devons continuer de travailler avec le Seigneur pour pas que notre chair soit irritée et qu'il veut quand même faire ce que la chair veut. Si nous avons ces deux choses ensemble, la maîtrise de soi et l'humilité, transformation du Seigneur dans notre cœur, alors notre parole sera différente et le Seigneur pourra donner beaucoup de vie. C'est pour cela qu'il l'a fait. On peut encore regarder certaines choses. Pourquoi est-ce que le Seigneur aimerait utiliser la langue et la parole? Proverbe 16, 20 à 21. C'est deux choses qui sont là, la parole et le cœur. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Est-ce que nous allons avoir une telle langue? Amen. Que nous puissions guérir par nos paroles. Dans le cantique, dans le cantique, la langue de l'épouse, c'est du lait et du miel. C'est comme notre langue si elle est pleine de miel. Et on peut partager du lait et du miel qui peut guérir, qui peut faire du bien à l'âme et qui amène au Seigneur. Ça, c'est bien. C'est bon. Et ensuite, dans Proverbe 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Une source de vie à temps qui ressort. J'ai beaucoup de choses dans mon cœur, mais dans ma tête. Mais parfois, quand il y a une difficulté, après ça, on ressort. Priez pour moi. Et pour terminer, le Seigneur nous a montré que nous devons être des rois, des sacrificateurs et des rois. Et là, il y a quelque chose de très décisif. Une fois, il est dit, pour les sacrificateurs, leur langue doit garder la connaissance. Mais de parler ce que parlent les rois, ça, dans Proverbe 16, 10 à 13, il est dit, qu'est-ce qu'un roi dit? Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Nous avons besoin de cette conscience dans la vie journalière. Pas que quelque chose soit sur notre bouche, mais que ce soit des oracles. De pouvoir parler droitement. Il y a beaucoup de situations où nous pouvons juger. Et j'ai trouvé bon comme c'est sorti aujourd'hui, nous ne jugeons pas les frères et sœurs. Mais en tant que roi et sacrificateur, nous sommes appelés à juger, mais pas mon prochain ou mon frère que je ne veux condamner, mais dans ma vie journalière. Est-ce que c'est bon ce qui est proposé ou ce que quelqu'un a fait? En tant que roi, nous avons besoin de la sagesse de Salomon pour discerner qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et ensuite de pouvoir avoir ce jugement. Pouvoir juger le monde si nous voyons des choses que l'ennemi fait. Nous devons apprendre en nous de juger. Il n'en vient pas de juger le frère, mais de juger l'ennemi, le méchant. Pouvoir discerner, c'est si bon. sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge, et c'est même ainsi. Un verset dans Corinthiens, il est dit que nous sommes appelés à juger le monde, dans 1 Corinthiens 6. Savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il ne dit pas au verset 9 qu'ils doivent se juger les uns les autres, mais il ne dit pas ça. Il dit, vous allez juger le monde. Au verset 3, pardon. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est avec les 12 tribus d'Israël. Et quand c'est pour notre vie journalière? Au verset 2, deuxième partie. Et si par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Notre langue doit parler la vérité du Seigneur. Ça, c'est une partie importante en tant que roi. Mais si aujourd'hui, nous ne l'exerçons pas, mais nous laissons toutes les paroles légères sur notre langue, alors nous ne pourrons pas juger. La parole de Dieu, c'est que tu seras jugé pour toutes tes paroles inutiles. Ou est-ce que nous voulons être jugés pour ce que nous avons dit, toutes les paroles inutiles, ou est-ce que nous voulons juger avec le Seigneur, le monde, l'ennemi et tout ce qu'il a bâti? J'aimerais pas, à la fin, ce que j'ai dit, rester comme je suis. J'aimerais être traité par le Seigneur. Ce que je dis, d'exercer la maîtrise de soi pour parvenir à maturité, pour qu'à la fin, je puisse régner avec lui, pour pouvoir accomplir le jugement sur cette terre et pouvoir entrer dans ce service. C'est là ce que le Seigneur veut nous amener, que nous puissions nous exercer. J'ai encore un dernier point. J'avais la préparation pour le chapitre 2, mais dans la préparation, il y a toujours nouvellement ce verset que le frère a lu avant. La miséricorde triomphe sur le jugement. C'est vraiment un fardeau fort du Seigneur. Que cette miséricorde vienne avec les frères et sœurs. Pas de juger les frères et sœurs, de juger les choses dans notre cœur que nous entendons, mais d'exercer la miséricorde avec nos prochains.